Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Dans la vie, il y a des épreuves, chacun le sait. Il y a des périodes plus faciles que d'autres. Mais cette période difficile, chez nous, on l'appelle des épreuves. Des épreuves, ça veut dire non seulement que tout simplement, il faut savoir tenir bon, mais quelque part, Dieu, dans son programme, il nous teste. Alors tester, c'est pas forcément tester comme on a l'impression, que voir si on est bon ou mauvais, c'est plutôt une notion de sortir les bons grâce aux épreuves. Donc normalement le but des épreuves c'est surmonter les épreuves et grandir. On sait que quelqu'un qui n'avait pas des épreuves, on ne cherche pas des épreuves bien sûr, mais quelqu'un qui n'avait pas des épreuves, il n'arrive pas à faire certaines choses. Quelqu'un qui a l'habitude que tout est facile, tout est normal, alors le jour où il devrait se débrouiller tout seul, c'est pas sûr qu'il pourra le faire. Celui qui a passé par des épreuves, alors à ce moment-là, il a plus de force. Donc ça, c'est la vision générale dans les différentes choses de la vie. On passe des épreuves, pas forcément douloureuse, mais bien pour pouvoir conduire, il faut avoir des épreuves, il faut faire des choses qui sont difficiles et que l'homme il puisse se tromper. Et ensuite, il trouve des solutions, donc ça fait partie de la vie. Et là aussi, dans d'autres domaines, il y a des épreuves et il y a cette expression qu'on dit que parfois on jette l'enfant dans l'eau et pour qu'il comprenne qu'il compte sur personne, donc là il va utiliser, il va compter sur ses propres moyens, etc. etc. Ça, c'est une vision très générale, et c'est évident que ça doit être comme ça. Et dans la vie spirituelle aussi, il y a cette notion des épreuves, et là dans notre paracha, qui d'ailleurs elle est censée être une paracha, comme on a vu la semaine dernière, on a commencé par cette semaine de consolation. Et consoler, ça veut dire que c'est pas forcément qu'on dit c'est comme ça la vie, il faut supporter le mal, mais c'est plutôt montrer le positif dans le négatif. Là encore, c'est pas toujours facile, pas toujours compréhensible, mais parfois oui, on peut comprendre le but de ces épreuves. Il y a des épreuves, mais grâce à ça, j'ai sorti plus fort, avec plus de possibilités, plus d'expériences. Et donc, dans notre vie aussi spirituelle, c'est prévu comme ça qu'on a des épreuves et on sort plus renforcé. Et donc, dans notre paracha, comme on a dit, qu'elle est une paracha de consolation, il y a aussi de ces notions que Moshe, il parle d'Israël, il leur parle de pas mal de choses. Et à un moment donné, il dit que Dieu, il vous a fait souffrir, il vous a éprouvé. Et donc, il y a cette notion d'épreuve, épreuve pour sortir grand. Et donc, ça, c'est vrai pour les gens qui étaient dans le désert, mais ça, c'est vrai aussi pour notre vie à nous. C'est comme ça qu'il faut regarder. Alors, encore une fois, nous, on ne sait pas, on ne fait pas de compte. Chacun, il cherche une vie plus facile, plus saine, et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas une erreur, il faut pas chercher la vie difficile, mais une fois qu'on a de ces épreuves, il faut comprendre la valeur de ces épreuves. Et là, il y a dans notre paracha plusieurs fois où la Torah elle répète cette notion des épreuves que Dieu nous a éprouvées, comme un père qui éprouve son fils, Dieu il t'éprouve. Mais parmi les exemples, il y a la notion de la manne. Dans le désert, il y avait une nourriture spéciale. C'était une nourriture qui s'appelle la manne. Cette nourriture était une nourriture plutôt spirituelle, matérielle. Ça veut dire que c'était une nourriture qu'on a mangée. Mais c'était d'une base spirituelle. c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qui était réservé que pour cette période. Et donc la manne est tombée tous les jours pour deux repas. Et pour vendredi, il y avait des repas pour deux jours, ça veut dire pour vendredi et samedi. Et il est marqué donc dans notre paracha que ça aussi c'était partie des épreuves. Parce que la manne, ce n'était pas facile, même si c'était très bon, mais comme il est marqué dans le Midrashim, ce qu'on ne peut pas expliquer bien, c'est au niveau scientifique, que la manne apportait, a supporté, avait en lui toutes sortes de goûts. Et pourtant, on trouve que les Juifs, ils ont critiqué la manne. Pourquoi ils ont critiqué la manne? Alors normalement, on trouve deux raisons. On trouve d'autres, mais parmi les raisons qu'on trouve ici dans notre paracha, c'est que d'une part, la manne, on aime, vous imaginez bien, quelqu'un qui achète une pastèque, et il voit dans la pastèque bien une autre couleur, alors ça ne lui donne pas le plaisir de la pastèque, parce que les pastèques, il faut voir. D'autres choses, quand on mange quelque chose, une nourriture qu'on aime bien, on ne les voit pas. On imagine maintenant qu'on mange telle et telle chose, effectivement c'est le même goût, mais voir, on voit des choses naître. Alors ça enlève le plaisir, ça nous laisse à notre faim. Donc ça c'était la manne qui avait effectivement plus de goût, et pourtant il avait la même couleur, il était blond. Alors c'est vrai qu'il a manqué dans la chassidoute, que les notions pourquoi il était blond, parce que dans le blond il y a deux notions, apparemment c'est comme ça que moi je comprends, je n'ai pas vu directement, que des blancs ils supportent toutes les couleurs, c'est la base de toutes les couleurs d'une part, d'une autre part aussi on voit que les blancs c'est aussi ça veut dire il a cette couleur qui c'est pas de couleur, c'est quelque chose qui Donc, comment on dit en hébreu, chakouf, quelque chose qui... je ne trouve pas les mots. En tout cas, c'est quand il y a de la neige qui est blanche, lorsqu'il devient liquide, il devient... cette couleur, ce n'est pas de la couleur. Donc, alors, à ce moment-là, dans cette couleur-là, parfois, on trouve une multitude de couleurs, comme par l'eau qui n'a pas de couleur, mais c'est considéré comme la couleur blanc, et donc, parce qu'effectivement, encore, ça c'est mon explication personnelle, mais il me semble que c'est correct. C'est blanc quand il est dur, mais il n'est pas blanc quand il est donc plutôt liquide, et pourtant, donc il n'a pas de couleur, et pourtant il supporte les couleurs. C'est pour ça que lorsque le soleil traverse l'eau, et il y a de différentes couleurs par l'arc-en-ciel, par d'autres manières. Donc ça veut dire que le blanc, d'une part, il est considéré comme une couleur neutre, mais d'une autre part, il est la base de toute couleur. C'est pour ça que aussi la manne, qui était d'une part la base de tout, c'est pour ça qu'il avait cette couleur blanc. Alors c'est vrai que bon, aussi, c'est pas quelque chose qu'on connaît, c'est une couleur spirituelle. En fait, c'était une nourriture plutôt spirituelle, matérielle, mais en fait, quelque chose qui n'existe pas dans notre monde. Et c'est pour ça qu'il apportait la couleur blanc, parce que, effectivement, comme le blanc, que c'est l'origine de tout. Mais, visiblement, on voit pas en lui tout. Là aussi, il est l'origine de tout, même ce qu'on voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que la manne, donc, c'était une nourriture qui a rassasié, bien sûr, mais d'une autre part, il n'a pas rassasié, parce que l'homme, il reste à sa faim, comme on dit parfois, parce qu'il ne voit pas dans la manne ce qu'il a cherché à voir. Donc ça, c'est une explication que les Talmides nous donnent, pourquoi c'était une nourriture que, quelque part, ça a fait souffrir. Une autre raison, c'est que quand quelqu'un, et on aime bien que notre réfrigérateur est rempli, que nos placards remplis de nourriture, on sait qu'on a pour quelques jours. Quelqu'un qui vit de jour en jour, il ne sait pas ce qu'il va manger demain, même quand il mange aujourd'hui, il a faim. Quelque part, parce qu'il fait des soucis pour demain, pour le lendemain. Et la manne aussi, c'était une nourriture pour aujourd'hui, pas pour le lendemain, sauf pour Shabbat. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous a fait souffrir. Donc il est marqué que la manne, c'était une nourriture qui fait souffrir. Et pourtant, c'était une période des épreuves. Dans le désert, c'était une période d'épreuves. Alors l'épreuve, le but, c'est pas faire souffrir quelqu'un, c'est faire grandir. Alors, pourquoi? Parce que justement, les 40 années où ils ont été dans le désert, c'était une école pour grandir, une école pour apprendre des choses. Et la base du judaïsme, c'est la foi en Dieu, bien sûr. Et même si on a tout... la foi en Dieu, on l'a à tout moment. Quelqu'un qui lui manque quelque chose, il a la foi en Dieu et il demande à Dieu qu'il l'aide. Et quelqu'un qui a tout ce qu'il a besoin, il doit voir comment finalement cette nourriture, ce qu'il a, c'est pas grâce à tel et tel, mais c'est grâce à Dieu. Donc ça, c'est un devoir à voir. Et pendant leur séjour dans le désert, il y avait ces écoles qui apprennent d'une part que voilà, la nourriture elle arrive tous les jours, mais ils voient que ça vient de là-haut. Ils voient que ça vient de là-haut pour plusieurs raisons. Par le fait même que ça vient de là-haut, c'est pas quelque chose de normal qu'il tombe de la manne. Et tous les jours, exactement en mesure qu'on a besoin, exactement pour la famille, le nombre de la famille qu'on a besoin. Tous ces détails, on voit que c'est divin. Mais d'une autre part, c'est une école pour l'avenir, à savoir que même lorsqu'on va rentrer, puisqu'ils ont été à la veille de leur rentrée en Israël, même si qu'ils vont, lorsqu'ils vont rentrer en Israël, ils vont avoir leur propre terre, ils vont travailler la terre, et parfois travailler dur la terre. Et à ce moment-là, on peut dire que le résultat, c'est grâce à mes efforts, et c'est aussi vrai. Mais en même temps, il faut savoir que même si que je fais d'efforts et je vois des résultats, ne pas oublier que finalement, la bénédiction, elle vient de là-haut. Donc alors finalement, c'était une sorte d'épreuve dans le désert pour apprendre à l'homme à voir les choses correctes. Donc même si on fait des choses, je vois le rapport entre l'effort que je fais et le résultat que j'ai fourni. Mais quand même, il faut savoir la vérité, que ça vient du ciel, que ça vient de Dieu. Et c'est pour ça aussi que de temps en temps, on a des épreuves dans notre vie. Et parce que parfois, on oublie ça. Et à ce moment-là, lorsque il y a ce qu'on remarque, d'où ça vient et on fait le nécessaire, à ce moment-là, on voit très souvent que la situation change. Moi, personnellement, nous, personnellement, ici à Dijon, on a des institutions qui nous coûtent énormément. Et on voit une différence, moi, personnellement, je vois une différence entre les périodes où je fais certains devoirs que je dois faire et une période que je n'arrive pas à le faire. En tout cas, je ne le fais pas. Je suis en retard par rapport à cette étude. Alors, à ce moment-là, directement, plusieurs fois, j'ai vu qu'il y a ces difficultés qui viennent. Parce que dans la vie, il y a nous qui on fait d'efforts. Si nous, on ne va pas faire d'efforts, c'est possible qu'on n'aura rien. Mais en même temps, il y a bien sûr Dieu. Donc alors, les épreuves, ça fait partie de notre vie. Encore, on ne cherche pas les épreuves, mais quelque part, les épreuves font partie. Donc alors, dans cette paracha, on nous explique ces bases très importantes. À ce moment-là, ça doit être une vision très générale, pas par rapport à ce qu'on vient de dire, mais par rapport à... Par rapport à la vie en général, quand il y a des choses, un problème, on l'appelle pas souffrance, on appelle plutôt des épreuves. Et c'est des épreuves. Et le but de ces épreuves, c'est surmonter les épreuves. Alors ça aussi, c'est le sujet un petit peu de cette période. On est dans cette période difficile. Dans le calendrier juif, c'était une période de deuil. Et après cette période de deuil, on surmonte les épreuves. Et on est dans cette semaine de consolation. Et parce que c'est ça l'idée, comme on a vu la semaine dernière par rapport au jour de 15 Av, que le 15 Av, on remonte après les épreuves. Parce que c'est ça le but. Le but de ne pas rester à ces épreuves, c'est le moment où on a surmonté les épreuves. Et c'est ça le but. Une petite histoire que il y a parfois dans la vie qu'il y a certaines personnes, certains enfants, si on est enseignant, qu'on a du mal avec eux, finalement on garde cette déception. Voilà, avec lui on peut rien faire. Et on baisse les bras. Alors il y a une histoire que j'aime, une histoire que je raconte de temps en temps, mais une histoire apparemment vraie. J'étais pas là-bas, bien sûr. Qu'il y avait un enfant qui était turbulent à l'école. Il a fait beaucoup de problèmes à l'école. Et donc, c'était il y a plus qu'un siècle. Bien plus qu'un siècle. Et donc, cet enfant, une fois, il rentre à la maison avec un papier. Il donne à sa mère. Et la mère, elle lit. Elle commence à pleurer. L'enfant, il dit, qu'est-ce qui se passe, maman ? Alors la mère, elle réfléchit, elle dit, l'école dit que tu es trop intelligent pour les autres, par rapport aux autres élèves, tu es trop fort par rapport à l'école, on ne peut plus te garder. Donc à partir de là, la mère, elle s'occupait de son enfant. Effectivement, il avançait, et finalement, c'était lui qui installait, inventait ou bien découvert l'électricité, puisque c'est lui qui l'a développé, c'est pour ça que l'électricité américaine s'appelle Edison. Donc ça, Edison est devenu un grand homme qui a fait des découvertes très importantes pour l'humanité. Donc le temps passe et un bon jour, sa mère, elle décède. Et l'enfant, donc maintenant il a une grande personnalité, il cherche, il fouille, il donne les affaires de sa mère, et il trouve ce papier qu'à l'époque l'école elle envoyait à son fils. En fait, l'école envoyait à la mère par rapport à son fils, et là-bas il n'y avait pas marqué ce que la mère l'a dit. Là-bas il avait marqué, votre fils il est turbulent, il est nul, je ne sais pas, d'autres termes qu'ils ont utilisés, on ne peut plus le garder. Bien sûr qu'aujourd'hui ça ne passe pas. Mais là-bas, à cette époque, ça passait. Et lui, il a compris que la mère, elle ne voulait pas lui décourager en lui disant des mots difficiles. Elle a changé cette idée. Elle a dit, non, tu es trop fort pour l'école. Parce que c'est vrai que si on prend une épreuve par temps plein, on arrive à avancer. C'est comme ça qu'il faut regarder la vie. Il y a d'autres personnalités qu'on les a considérées comme nulles parfois. Mais il faut savoir que le contraire, c'est parfois ces enfants qui sont nuls, et si on les traite bien, ils deviennent des grands personnages qui changent pas mal de choses dans le monde. Alors, il y a, on raconte un petit peu cette idée aussi par rapport à Einstein, qu'au début, il n'était pas un enfant très réussi, mais finalement, il a changé, comme on le sait. Et on raconte, il y a certaines traditions par rapport au Maïmonide aussi, et d'autres. Encore un sujet dans notre paracha. La paracha, donc, elle s'appelle, mais c'est dans le même sens, la paracha, elle s'appelle Ekev. Ekev, ça veut dire « si ». Ça veut dire que Moshe, avant son décès, il essaye d'encourager le peuple de garder la Torah, de faire ce qu'il faut. Donc il dit, si on est dans la troisième paracha, il a dit déjà pas mal de choses, il a répété une partie de la Torah, mais aussi il a dit pas mal de mots d'encouragement, aussi des mots un petit peu durs, pour montrer comment le passé aurait pu être mieux. Et là ici, il commence par cette notion, si vous allez écouter ce que Dieu il vous dit, vous allez le faire, alors à ce moment-là, Hachem, il va vous donner toutes ces bénédictions qu'il vous a promis. Donc alors, Ekev, si, ça c'est une explication, si vous allez écouter, vous allez avoir telle et telle chose, toutes ces bénédictions. Mais à ce moment-là, on pose la question, pourquoi la Torah utilise le mot Ekev, que c'est un mot rare. Et donc, il y a des différentes explications. Il y a une explication que Rashi porte, que Ekev, ça veut dire talent, ça veut dire si les mitzvot, si vous allez même garder les mitzvot que légères, que certaines personnes les traitent mal, qu'ils tâtonnent avec leurs pieds, alors à ce moment-là, vous allez avoir ces bénédictions. Mais il y a une autre explication qui dit que c'est pas seulement si, c'est aussi parce que dans le même texte, dans la Torah, porte beaucoup des idées, parfois opposées. Alors il y a une autre notion qui nous dit que Ekev Tishmeon, Ekev ça veut dire à la fin des temps, vous allez écouter. À la fin des temps, ça veut dire qu'il n'y a pas la fin des temps. Quand on utilise la notion de fin des temps, c'est par rapport à quelque chose. Ça veut dire à la fin d'un système avant de rentrer dans un autre système. Il y a cette période messianique, mais avant le temps messianique, en fait, le temps messianique, on y est déjà. Mais en fait, avant ce changement messianique, il y a cette période difficile. Ça s'appelle l'étalon de Mashiach. C'est une période où on est parfois très désespéré, on voit les choses mal, on a l'impression que tout va mal. C'est pour ça qu'on utilise dans les générations, les différentes générations, il y a une période de tête, il y a des périodes de cœur, et il y a différents, comme le corps humain, il a plusieurs niveaux, il a plusieurs mouvements. Alors il y a des gens qui sont plutôt des gens de tête, les gens qui réfléchissent, il y a des gens qui sont plutôt des gens de cœur, il y a des gens qui font des actes. Ni ils comprennent grand chose, en fait, chacun avec sa qualité, mais quand même, il y a des gens que c'est pas leur idée fort, la pensée, ou bien pas la pensée, la partie intellectuelle. Aussi, au niveau sentimental, c'est pas leur partie fort, mais leur partie fort, c'est l'acte. Et donc, là aussi, dans les générations, il y a une période où les gens, ce qu'on trouve dans l'histoire juive, il y a des périodes où on les considérait comme une période de tête. Les gens, ils ont eu la tête sur les épaules. Et c'était des gens intelligents. Et ça, c'est plutôt cette période de la sortie de l'Égypte qu'on appelle Dordéa, une période de comment traduire Dordéa, mais en tout cas, une période de gens avec savoir, avec le savoir-vivre, mais aussi avec une compréhension profonde. Ça, c'était la génération, la telle génération. Et notre génération, on est la génération plutôt pratique. On fait des choses. En tout cas, ça, c'est par rapport à la vision de la Torah. Parce que relativement, si on regarde peut-être le monde actuel moderne par rapport à une autre période, alors peut-être on peut imaginer, on peut voir le contraire quand on avance, mais par rapport au monde juif, si on compare notre compréhension par rapport à la compréhension passée, on trouve des géants, des gens de génie à l'époque qui n'existent pas trop aujourd'hui. On est aujourd'hui des gens moyens. Donc alors très souvent on écoute les anciens qui nous disent à notre époque ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est une génération terrible, etc., des mots comme ça. Et ça, j'avais un maître qui disait, ne croyez pas à ces gens qui disent ça, parce qu'on a toujours entendu ça, toujours. Les anciens, ils disent, à notre époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est différent. En vérité, c'est vrai. C'est faux, mais en même temps, c'est vrai. Parce que selon la vision talmudique, le monde, il est en descente. Ça veut dire qu'on perd de vitesse, on perd de hauteur par rapport à certaines choses. Bien, il faut préciser, pas par rapport à tout. Donc alors, c'était prévu. Il y a une expression talmudique qui dit que si les anciens, donc c'est, il y a très longtemps, il y a plusieurs siècles de ça, le Talmud nous dit que si nos ancêtres, on le considère comme des anges, alors nous on est comme des hommes. Mais si on considère que les ancêtres ils ont été comme des hommes, nous on est comme des ânes. Mais pas l'âne tel l'âne qui était un âne intelligent, l'âne de Pinchas ben Yair. Donc on trouve qu'il y a cette considération que les anciens étaient plus forts que nous. Donc alors à ce moment-là, on a beaucoup de raisons d'être désespérés. Qu'est-ce que vont venir les générations d'après? Nous, on en savait ça à tout niveau. Il y a des gens qui comparent et ils disent, à l'époque, c'était une autre chose. Aujourd'hui, c'est une autre chose. C'est pas la même chose. On est bien beaucoup bas, beaucoup plus bas que ce que c'était autrefois. Et la Torah, elle reconnaît qu'il y a cette notion. Et pourtant, la Torah nous dit que, justement, la petite génération bas, c'est eux qui vont comprendre. Ça veut dire que même si c'est un petit peu contre la logique, que plus qu'on perd de vitesse, plus qu'on perd de compréhension, alors plus qu'on perd aussi dans la valeur, mais la Torah nous dit le contraire, que vous allez voir que justement dans cette génération difficile, compliquée, c'est là où ils vont comprendre. Alors ça c'est parmi les symboles, les significations de ces mots, Vayaek et Tishmeon, on dit que à la fin du temps, comme on a dit tout à l'heure, à la fin du temps, ça veut dire à la fin d'une période, importante. À la fin de ces temps, finalement, les gens ils vont comprendre, ils vont écouter. Ça veut dire que la parole de divin et le message de la Torah qui n'était pas toujours écouté. C'est vrai qu'il y avait des épreuves, de grandes épreuves dans les générations. Mais ça, à la fin du temps, encore une fois, cette expression, on va écouter. Donc, Vaya Ekev Tishmon, ça veut dire dans les périodes de talons, on considère que les gens ne comprennent pas. C'est là où ils vont trouver la raison. Et c'est là où ils vont comprendre ce qu'il faut faire. Et là aussi, c'est le symbole général. C'est pour ça aussi que c'est une notion de consolation. Que c'est vrai que. C'est vrai qu'on descend, mais justement lorsqu'on descend, c'est là qu'on comprend. Alors pour plusieurs raisons, pourquoi? Mais parmi les raisons, c'est comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui l'a goûté lui-même, il a compris lui-même, pas parce qu'on l'a expliqué, parce qu'il a compris par son expérience. Alors à ce moment-là, il comprend. Et une fois qu'on a compris par notre expérience, on le comprend différemment. Même si on n'est pas au niveau des anciens, mais justement, après goûter et comprendre, à ce moment-là, on est beaucoup mieux. En tout cas, ça c'est une vision très très générale, dans le judaïsme, mais surtout dans notre parasha, qu'on a plusieurs exemples à cette notion, qu'on sait bien que le monde, il perd de sa valeur, et c'était prévu. C'était prévu, il est marqué plusieurs fois dans la Torah. Et donc, bien sûr qu'en tant qu'éducateur, il faut chercher à amener nos enfants au plus haut et au plus fort. Mais en même temps, si ce n'est pas le cas, donc c'est sûr qu'il faut être, il faut être désolé, il faut essayer de rattraper. Mais si quand même ce n'est pas le cas, alors il faut savoir que finalement, c'est pour le bien et il faut trouver comment on s'y remonte à partir de là où on se trouve aujourd'hui. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, avec les épreuves qu'on a aujourd'hui, on ne les voit pas toujours. Parfois, on voit des enfants qui ont été perdus. Mais en tout cas, c'est comme ça que la Torah, elle veut qu'on regarde les choses. Quelqu'un qui l'a descendu, il a descendu très très bas. Il faut voir comment situation qu'il est. Dans cette situation où il a descendu tellement de bas, comment il peut surmonter? Et pour terminer, c'est que dans notre parasha, donc on parle beaucoup de cette période que Moïse il était sur le mont Sinaï. Et la Torah, on sait qu'il était 3 fois 40, en tout cas selon certaines opinions, 3 fois il était 40 fois, 40 jours dans le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï. La première fois, il était pour recevoir la Torah, tout simplement. Ensuite, à la suite de cette chose, il y avait la faute de Vaudor. À ce moment-là, il devrait réparer. Et il a prié pendant 40 jours qu'il a essayé de réparer. Il a arrivé à réparer. Et la troisième fois, c'était où il était encore une fois pour recevoir la deuxième table de la loi. Et par rapport à cette table de la loi, il est marqué, et la Torah elle se termine avec ça, que Dieu il a dit à Moshe, merci d'avoir cassé le luchot. Yashar kohach, comme ça le Talmud utilise cette notion, Yashar kohach shibarta, asher shibarta, ça veut dire merci que tu l'as cassé. Parce que justement, par le fait que tu la cassais, les peuples, ils ont compris les messages, et ils en retournaient, mais lorsqu'ils en retournaient, c'est après avoir compris. Et donc ça, c'est la vision, et donc avec ça, on va conclure aujourd'hui. La vie n'est pas facile, bien sûr. Les difficultés, il faut l'appeler des épreuves. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a un Dieu qui guide le monde. Et on ne comprend pas tout, c'est sûr. Mais d'une autre part, il faut regarder comme ça, que quand on a un problème, il faut l'appeler une épreuve. Il faut regarder comment on surmonte les épreuves. Et comme on a dit tout à l'heure, que finalement, ça c'est la vision de la Torah et de cette semaine, que malgré toutes ces difficultés qu'on a, finalement, il y aura un moment où on va comprendre les messages, comme le langage de notre parasha, Vaya Ekev Tishmeru. Ça veut dire qu'à la fin du temps, vous allez comprendre. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Fête et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.